La première,
9h-10h,
l'histoire continue,
Bertrand N, Hélène Maquet.
Wall Street a très bien compris qu'il pouvait faire des bénéfices encore plus importants.
Des transactions sans avoir besoin d'une institution financière.
It's most likely it's a fictitious name.
Comment faire pour changer le monde? On peut manifester, on peut mener des actions, on peut produire de nouvelles idées. Il y a des tas de recettes qui ont été éprouvées à travers l'histoire.
On peut aussi tenter de renverser le modèle dominant en proposant tout un nouveau système. C'est la grande aspiration du Bitcoin, monnaie virtuelle, crypto-monnaie, née à la fin des années 2000.
Une histoire aujourd'hui encore auréolée de mystères. Il y a bien une personne qui a créé le Bitcoin, son nom est Satoshi Nakamoto.
Mais personne ne connaît son identité. Celui ou celle qui a créé le Bitcoin s'est volatilisé il y a 10 ans et personne ne sait ce qu'il en est advenu.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire continue. On se plonge donc dans notre histoire récente aujourd'hui.
Oui, on vous raconte une histoire qui a démarré il y a une quinzaine d'années et qui est une véritable épopée, celle du Bitcoin, première des grandes crypto-monnaies, plutôt perçue aujourd'hui comme un lieu d'investissement à risque, mais aussi possiblement très rentable, en fonction du cours du Bitcoin évidemment. Mais on oublie parfois que le Bitcoin est d'abord une utopie politique.
Oui, son créateur, sa créatrice, ses créateurs, ses créatrices, on ne sait pas de qui il s'agit, ont inventé une monnaie, un système monétaire qui se passe des banques, qui se passe des institutions, où la question de la confiance est transférée à une communauté de personnes plutôt que d'être détenue par une institution officielle.
Ce qui n'était qu'un modèle théorique est rapidement, en quelques années à peine, devenu concret. Il pénètre d'ailleurs l'économie réelle. Mais le Bitcoin est-il pour autant en train d'atteindre ses objectifs du début ou est-il en train d'être dévoyé? C'est notamment ce que nous allons tenter de comprendre.
Avec nous en studio, Gilles Coastio. Bonjour Gilles.
Bonjour Bertrand, bonjour Hélène.
Alors vous êtes un des journalistes belges les plus fins sur la question des crypto-monnaies. Vous travaillez à l'Écho. Vous avez écrit deux livres sur le sujet. Bitcoin et crypto-monnaie, le guide pratique de l'investisseur débutant et dit c'est quoi les crypto-monnaies. Alors vous êtes également l'auteur du podcast OneCoin qui raconte une grande arnaque aux crypto-monnaies et puisque vous ne vous arrêtez décidément jamais, vous êtes aussi l'auteur d'une BD.
Voilà, une BD qui est sortie cette semaine, donc sous format webtoon, comme on dit. Donc c'est une BD
en ligne
qu'on peut lire sur son smartphone et qui raconte l'histoire de Viviane qui a perdu 28 000 euros, qui a investi 28 000 euros dans une plateforme de trading aux crypto-monnaies qui s'avère être une vaste escroquerie. Et donc on essaye de raconter dans cette BD un petit peu comment ça fonctionne, vraiment les mécaniques de l'arnaque pour essayer d'alerter les gens parce que ces arnaques, ces escroqueries, malheureusement, elles prolifèrent énormément aujourd'hui.
On va en parler dans cette émission. Avec nous également, on est ravis d'accueillir Monsieur TK. Bonjour.
Bonjour et merci pour l'invitation.
Vous êtes YouTuber, vous avez une chaîne spécialisée dans la vulgarisation sur le minage du Bitcoin. On va expliquer tout ça plus clairement dans l'émission. C'est l'occasion ou jamais de faire un peu de vulgarisation. Vous, comment est-ce que vous êtes tombé dans le Bitcoin ?
Alors, moi, comme beaucoup de personnes, je m'y suis intéressé en 2016, avant toute chose, pour l'aspect économique.
Vous vouliez de l'argent, vous vouliez investir pour vous faire un peu d'argent.
Exactement. Le but, c'était pas de devenir millionnaire, mais c'était de gagner un petit peu d'argent sur le côté pour se payer un restaurant, un cinéma ou autre. Et en fait, quand je suis tombé dans l'écosystème des crypto-monnaies, j'ai découvert vraiment tout l'aspect technologique qu'il y a derrière. Et en fait, je suis arrivé pour l'argent et je suis resté pour la technologie.
Alors, avant de tenter de comprendre ce qu'est devenue cette première grande crypto-monnaie, le Bitcoin, on se replonge dans nos archives au cœur de cette histoire mystérieuse de la création du Bitcoin.
Temple City, banlieue de Los Angeles, jeudi 6 mars 2014. En retrait des rues qui quadrillent le quartier, les maisons basses, peintes aux couleurs claires de la Californie, n'attendent rien de particulier. Et pourtant, il y a une drôle d'agitation. Des dizaines de journalistes font le siège d'un de ces petits pavillons de banlieue. Caméras et micros tendus, ils attendent un homme. Tout à coup, la porte s'ouvre. Un type d'une soixantaine d'années sort, chemise pistache un peu molle, blazer de laine claire. On dirait qu'un coup de vent a balayé ses cheveux gris il y a plusieurs années et que depuis, il reste fixé dans un drôle de mouvement qui traverse son front dans le désordre le plus complet. Des lunettes à monture transparente glissent trop bas le long de son nez. Dans un bruit de flash d'appareils photo et de clés qu'il tourne dans la porte, Dorian Satoshi Nakamoto, c'est son nom, déclare ceci.
Pas de questions, pas de questions maintenant. Je veux juste mon déjeuner gratuit. Je ne suis pas impliqué dans le Bitcoin. Je veux mon déjeuner gratuit. Je vais aller avec ce type-là.
Ce type-là, c'est un journaliste de l'Associated Press qui lui a promis un plateau de sushi. Il lui offre le déjeuner si Dorian Satoshi Nakamoto raconte sa propre version de l'histoire. Une histoire complètement folle qui lui est tombée dessus 3 semaines plus tôt quand une journaliste du magazine Newsweek l'a appelé. Elle voulait savoir si ce n'était pas lui qui avait inventé le Bitcoin, cette monnaie virtuelle. Dorian Satoshi Nakamoto a été physicien, mais là, il est au chômage et vit dans une petite maison de la banlieue de Los Angeles avec sa vieille maman de 94 ans. Pour comprendre pourquoi les caméras se pressent autour de la maison de cet ingénieur d'origine japonaise avec tant d'appétit, il faut remonter des années plus tôt. Au moment où quelqu'un s'est dit qu'il fallait changer le monde en changeant la finance.
Not in generations has Wall Street absorbed the number of body blows it took today.
The American financial system is rocked to its foundation as top Wall Street institutions topple.
Nous sommes à l'été 2008 et aux États-Unis, tout à coup, les maisons ne valent plus rien. Un mot est en train d'entrer dans le vocabulaire des journalistes.
On les appelle les subprimes, ce sont donc ces fameux crédits hypothécaires à risque consentis aux États-Unis à une population moins aisée sur un plan financier. Une population qui ne peut plus faire face à l'augmentation des taux. Résultat aujourd'hui, des milliers d'Américains sont contraints de vendre leurs biens, ce qui provoque un effet boule de neige.
Les Américains ont contracté des prêts hypothécaires à risque, une clientèle peu solvable qui se retrouve avec des dettes impossibles à rembourser. Alors les maisons sont vendues par les banques et les organismes de prêt. Les agents immobiliers comme Dana Scanlon, interrogé par le correspondant de la RTBF aux États-Unis, n'en reviennent pas.
Cette maison est en fait assez typique de ce qui se passe sur le marché américain à l'heure actuelle. Il y a 3-4 ans, cette maison, une fois mise sur le marché par un professionnel, elle aurait été vendue en 3 jours. Cette maison actuellement traîne sur le marché depuis plus de 4 mois.
Comme beaucoup d'Américains, comme beaucoup d'Américaines, elle condamne cette fuite en avant des marchés financiers dont les Américains les plus pauvres paient aujourd'hui le prix.
Pendant ces années go-go, où Wall Street a très bien compris qu'il pouvait faire des bénéfices encore plus importants en prêtant de l'argent à des ménages qui en fait n'avaient pas véritablement les moyens d'acheter ces maisons.
C'est encore l'été 2008, ce qui va devenir une crise financière mondiale est encore devant nous. Mais Dana Scanlon, responsable d'agence immobilière anonyme, vient de mettre le doigt sur un phénomène qui va profondément marquer l'Amérique.
1 million d'Américains est concerné, probablement 2 millions de mains. On ne compte plus les organismes de prêt qui sont ruinés par ceux qui ne peuvent pas rembourser. Le capitalisme tueur devient un thème de campagne présidentielle. Et plus grave encore, on craint la contagion planétaire. Et bien sûr, d'autres victimes.
Le capitalisme tueur. Avec la crise des subprimes, la confiance dans les banques, qui vont être largement recapitalisées par les États, cette confiance va s'effondrer. Or, la confiance dans les institutions, c'est ça qui fait notre modèle financier. Nous pouvons donner de la valeur à l'argent parce que cette valeur est reconnue par des institutions financières. Pourtant, cette idée, vieille comme le capitalisme, pourrait être réfutée. On pourrait imaginer un système sans banque, sans institution tierce. Une idée circule sur des forums en ligne, celle d'une monnaie virtuelle, de jetons numériques. Mais il y a un problème technique à régler pour que ça marche, celui de la double dépense. Puisqu'il s'agit d'un jeton numérique, il peut être dupliqué, copié-collé, et donc il peut être dépensé 2 fois. Et ça, c'est un écueil indépassable si on veut créer un nouveau système monétaire. Mais quelqu'un va trouver la solution. Et cette personne va devenir un des plus grands mystères de notre époque. Nous sommes le 31 octobre 2008 et sous le nom de domaine bitcoin.org, un document apparaît. Son titre, Bitcoin. Un système de cash électronique de pair à pair. il est signé du nom d'un inconnu, Satoshi Nakamoto. Le texte fait 9 pages, comprend quelques graphiques. Ceux qui s'y connaissent n'en reviennent pas de la simplicité et de l'élégance de l'exposé.
Il faut un système de paiement électronique basé sur une preuve cryptographique au lieu de la confiance. Un système de paiement qui permet à deux parties volontaires de réaliser entre elles des transactions sans avoir besoin d'une institution financière.
Et ailleurs dans le texte,
nous proposons une solution au problème de la double dépense en utilisant un réseau de pair à pair.
L'idée de ce Satoshi Nakamoto tient sérieusement la route. Il propose un système où toute une communauté assure la confiance. Chaque transaction est en quelque sorte vérifiée par les membres du réseau qui sont connectés les uns aux autres et pas par un acteur tiers. Le pouvoir et la confiance appartiennent au réseau. Ce document s'appelle le livre blanc du Bitcoin. Il sera suivi quelque temps plus tard par des détails techniques sur les aspects logiciels. Toute une communauté en ligne s'en empare et rapidement, le Bitcoin devient une réalité. Mais personne ne connaît la véritable identité de Satoshi Nakamoto. Est-ce un homme? Une femme? Est-ce un groupe de personnes? Est-il japonais? Est-il américain? Il y a quelques indices, il serait né en 1975. Mais cela, est-ce même vrai? Sur les forums dédiés au Bitcoin en tout cas, Satoshi Nakamoto publie régulièrement des messages de nature plutôt technique. Tout va bien, jusqu'à ce qu'un premier scandale en 2010 vienne par ricochet perturber l'évolution du Bitcoin. Le scandale Wikileaks, cette plateforme qui accueille des fuites de documents officiels, se finance notamment grâce au Bitcoin.
400 000 documents confidentiels livrés aux internautes du monde entier. Autant de révélations de mauvais traitements, de tortures commis par les Américains comme par les forces de sécurité irakiennes. Les documents couvrent une période de 6 ans après l'invasion américaine qui a renversé le régime de Saddam Hussein. Le site britannique estime aussi à 109 032 le nombre de morts sur le terrain. 60% seraient des civils.
Les fuites de Wikileaks dérangent évidemment les autorités américaines et mettent le Bitcoin au centre d'une attention dont Satoshi Nakamoto ne semble pas vouloir. Ce qu'il craignait survient d'ailleurs un an plus tard. Le 29 janvier 2011, Silk Road, place de marché du Dark Web, est partagée pour la première fois sur un forum dédié au Bitcoin. Silk Road, c'est la plaque tournante du commerce de drogue en ligne.
Cannabis, ecstasy, héroïne, mais aussi contacts de faux-monnayeurs, de tueurs à gages, on trouvait de tout sur Silk Road, la route de la soie, la voie directe vers tout ce qui est illégal. Ce site internet repose sur un principe, l'anonymat, que des pseudonymes, et les échanges se payent en monnaie virtuelle.
Et ça ne manque pas une nouvelle fois d'attirer l'attention des autorités sur le Bitcoin. Quelques semaines plus tôt, Satoshi Nakamoto a publié son dernier message sur le forum Bitcoin Talk, un message technique.
Il y a encore du travail à faire sur le déni de service, mais je consolide rapidement ce que j'ai jusqu'à présent au cas où cela serait nécessaire, avant de m'aventurer dans des idées plus complexes.
Le 26 avril 2011, Satoshi Nakamoto envoie un dernier mail à un de ses compagnons de la première heure, Gavin Andresen.
La presse transforme le Bitcoin en une crypto-monnaie pirate. Essayez plutôt d'expliquer qu'il s'agit d'un projet open source et donner plus de crédit aux contributeurs, cela contribue à les motiver.
Ces mots sont les derniers connus de Satoshi Nakamoto. Après cela, il s'est évanoui dans la nature, épaississant encore le mystère autour de la création du Bitcoin et lançant à ses trousses des dizaines d'internautes, de blogueurs, de journalistes. Des journalistes parmi lesquels Leah McGrath Goodman. En 2014, la journaliste de Newsweek pense bien avoir trouvé. Satoshi Nakamoto, pense-t-elle, est un ancien ingénieur de 64 ans qui vit à Temple City, dans la banlieue de Los Angeles. Son nom ne trompe pas, il s'appelle Dorian Satoshi Nakamoto. Le 6 mars 2014, l'article est publié. Le jour même, les caméras de télévision se pressent devant le pavillon de banlieue. Après avoir fermé la porte de sa maison, l'homme traverse la nuée de journalistes et s'engouffre dans une voiture de la société de presse, celle d'un journaliste qui lui a promis un lunch gratuit. Quelques heures plus tard, Dorian Satoshi Nakamoto s'installe pour faire une déclaration depuis le bureau de l'agence de presse américaine.
Wow. I want a big one.
Je veux le grand plateau.
Oh, ok. Yeah, this will be good.
C'est parfait.
Oh, plateau de sushi devant lui, il dit ceci quand on lui demande s'il a créé le Bitcoin.
No, I'm not that brilliant.
Non, je ne suis pas assez brillant.
Satoshi is not.
Le nom Satoshi n'est pas si commun. Alors,
and then when you put
quand on tape ça, plus ingénieur télécom sur Internet, on peut faire un rapprochement. Mais quand même, je ne suis pas impliqué dans le Bitcoin. Et j'aimerais vraiment bien retrouver la personne qui a eu l'idée de ce nom. C'est quand même le plus probablement un nom fictif.
Le lendemain, sur un forum dédié au Bitcoin, un compte réputé être Satoshi Nakamoto écrit ceci.
Je ne suis pas Dorian Satoshi Nakamoto.
Probablement un coup dans l'eau, même si Dorian Satoshi Nakamoto est peut-être un excellent comédien. Depuis lors, nombreux sont ceux qui cherchent encore, mais Satoshi Nakamoto a disparu. Son œuvre, elle, continue de prospérer. Il possède 1,1 million de bitcoins sur un compte auquel il n'a pas touché depuis.
La première,
l'histoire continue.
Hélène Maquet, Bertrand N.
On retrace donc aujourd'hui le fil de cette odyssée du Bitcoin qui s'étire donc sur ces 15 dernières années et notamment avec ce mystérieux ou mystérieuse Satoshi Nakamoto.
Oui, il y a plein de théories sur qui ça peut bien être. Une personne, deux personnes, trois personnes, 10 personnes, des hommes, des femmes. On a développé ici cette sorte de méprise très probablement autour de cet ingénieur d'origine japonaise, Dorian Satoshi Nakamoto, ou pas. Mais
Bon comédien alors.
Voilà, voilà. Bon comédien. Il y a des tas d'autres profils qui sont de bons candidats. Gilles Coistio, Monsieur TK, vous avez des théories ? Vous avez-vous une théorie, l'un ou l'autre ?
En tout cas, ce qu'on sait, et vous l'avez rappelé, c'est qu'on a pu identifier le premier portefeuille de Bitcoin, qui est le portefeuille de Satoshi Nakamoto. Et ce portefeuille n'a pas bougé, donc personne n'a...
Ça se trouve, il est mort !
Moi, c'est plutôt ma théorie, parce que ce million de bitcoin, aujourd'hui, il vaut énormément d'argent, évidemment.
Il vaut combien ?
Aujourd'hui, on en est à 20 000, quelque chose comme ça. Donc,
ah oui, quand même.
Voilà. Au mois d'avril, c'était dans les 30 personnalités les plus riches au monde, selon le classement de Forbes.
Et personne ne sait qui c'est.
Et donc, c'est pour ça qu'une des théories, ce serait ce développeur qui s'appelle Al Finney, qui a était en contact avec Satoshi Nakamoto et donc qui pourrait faire partie de ce collectif et qui est depuis décédé.
Et qui est aussi, et ça c'est, alors est-ce un hasard, mais c'est probablement un hasard, il habite dans le même quartier à Temple City que Dorian Satoshi Nakamoto, cet ingénieur d'origine japonaise.
C'est pour ça qu'il y a eu cette méprise, il y avait énormément de coïncidences quand même assez étranges.
Vous, votre théorie c'est quoi, monsieur Teka?
Ah, je suis totalement d'accord avec ce que Gilles vient de dire. Effectivement, la théorie autour de Hal correspondrait plutôt bien, puisque au moment où, en tout cas, il y avait ces échanges sur bitcoin.org, on avait effectivement des échanges entre Satoshi Nakamoto et Hal.
C'est un cryptographe.
Et comme vous l'avez très bien dit dans le reportage, il s'agit probablement en tout cas d'un groupe de personnes. On serait quand même très très étonné que ce soit une seule personne qui soit à l'origine d'un tel concept.
D'accord. Alors avant d'essayer de comprendre comment cette monnaie virtuelle a été adoptée par de très nombreuses personnes dans le monde, comment elle est utilisée aujourd'hui, on va quand même faire un peu de vulgarisation. Quoi qu'il y en avait déjà pas mal dans le récit, hein. Hélène, Gilles Coistio, peut-être avec vous, journaliste à l'Écho, l'idée de Satoshi Nakamoto, en quoi elle est révolutionnaire ?
Il faut rappeler que c'est vraiment un projet contestataire qui s'adressait à une problématique à l'époque de la crise financière. Hélène l'a rappelé dans son récit, c'était la crise des subprimes. On a vu tous les excès des banques qui vendaient quelque part des produits pourris, qui ne comprenaient pas, les banquiers ne comprenaient pas ces produits et les ont quand même vendus à des investisseurs, à leurs clients. Et donc a germé dans l'esprit de certains la possibilité de créer une monnaie d'échange qui se passe du secteur bancaire, donc qui n'aurait plus besoin des intermédiaires financiers traditionnels. Et c'est comme ça qu'a germé l'idée du Bitcoin. Alors, pour se remettre peut-être dans le présent, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce projet, il a évolué aussi vers certains scandales financiers dans lesquels on est en plein dedans aujourd'hui.
Alors vous, Monsieur TK, vous faites du minage
Alors, c'est un des termes qui est lié au Bitcoin. On dit il faut miner du Bitcoin. Et ça va peut-être nous aider à comprendre concrètement, techniquement, comment ça fonctionne. C'est quoi le minage du Bitcoin ?
Alors, c'est quelque chose qui, sur le papier, est relativement complexe et compliqué. Mais en pratique, si on doit le vulgariser, l'expliquer le plus simplement possible, en fait, le minage de Bitcoin, c'est tout simplement résoudre une équation mathématique. Et cette équation mathématique, elle peut être résolue notamment au moyen de machines, d'ordinateurs. C'est notamment comme ça que Satoshi Nakamoto a lancé Bitcoin avec un simple ordinateur, son ordinateur personnel. Et en fait, le travail des mineurs, ça va être justement le travail de confiance. Comme Gilles l'a dit, on n'est plus sur un tiers comme une banque centrale, la banque européenne ou autre. Ici, ce sont vraiment les mineurs qui assurent le bon fonctionnement et la sécurisation du réseau.
Alors cette équation, c'est quoi ? C'est en fait chaque transaction, elle est inscrite dans un grand registre et résoudre cette équation, quelque part, ça garantit que la transaction a bien eu lieu. C'est un peu comme ça que ça fonctionne ?
En réalité, donc réellement, le travail des mineurs, c'est effectivement lorsqu'une transaction va être soumise au réseau, cette transaction va être inscrite dans un bloc, puisqu'on parle effectivement de la blockchain, c'est une chaîne de blocs qui constitue le réseau Bitcoin. Et donc, pour inclure cette transaction dans un bloc, les mineurs vont devoir sélectionner les transactions qu'ils vont vouloir inscrire dans le bloc, puisque les blocs ont une quantité maximale de transactions qu'ils peuvent accepter, donc on ne peut pas mettre tout et n'importe quoi. Et ensuite, lorsque le bloc est validé, il va être scellé par le mineur et ajouté à la blockchain et on recommence avec un nouveau bloc, et ce, toutes les 10 minutes sur Bitcoin.
Et en réalité, il y a plein de mineurs à la fois qui essayent de résoudre l'équation, et c'est ça qui fait la confiance, c'est que ce n'est pas un mineur tout seul dans son coin qui est en train de résoudre l'équation, il résout l'équation et puis des tas d'autres gens autour vont vérifier qu'il a bien résolu l'équation correctement.
Exactement, c'est
donc
ça.
Donc c'est de l'autocontrôle permanent quoi, entre les mineurs. Tout le monde se contrôle.
Exactement.
C'est ça qui fait de la confiance
totale.
Ouais.
L'idée, en fait, c'est même quelque part qu'on ne peut pas faire confiance à chaque mineur. C'est la machine et c'est le système qui va générer la confiance. Alors, il y a quelque chose qui est aussi très intéressant avec le Bitcoin, Gilles Quastio, c'est qu'il y a un nombre limité de Bitcoin.
Ce nombre limité, c'est 21 millions. Donc, on sait qu'il y aura 21 millions de Bitcoin qui seront mis en circulation d'ici la fin du protocole.
On est à combien,
Bitcoin. Alors, pour l'instant, on est à 19 millions, quelque chose comme ça.
Ah bah, on arrive à la fin.
Il faut savoir que ça a été assez vite au début, mais que le protocole prévoit que ce sera de plus en plus difficile de miner du Bitcoin. Et donc, on prévoit qu'on arrivera aux 21 millions. Donc, ça progresse de moins en moins vite en l'an 2130, quelque chose comme ça.
Ah oui, d'accord.
Et qu'est-ce qui se passera quand il n'y aura plus de Bitcoin à miner ?
Donc l'intérêt en fait de ce système pour les défenseurs du Bitcoin, c'est de considérer qu'il y aura une quantité limitée de Bitcoin en circulation et donc on ne peut pas imprimer du Bitcoin comme on imprime des billets.
On ne peut pas faire tourner la planche à Bitcoin.
Voilà, on ne peut pas du tout faire la même chose que ce qu'on fait dans le monde financier traditionnel pour relancer la machine économique. Ici, il y a vraiment un nombre limité de Bitcoin et c'est ce qui fait, selon les défenseurs du Bitcoin, évidemment la rareté du Bitcoin et donc du coup sa valeur.
D'accord. Et alors, mais vous disiez... Gilles Quastio, qu'on se permet de se passer des banques, ça on comprend bien, le contexte politique de 2008, on en veut beaucoup au marché financier classique. Monsieur TK, il y a aussi quand même se passer des États.
Bien sûr.
C'est aussi politique, mais alors plutôt contre... parce qu'on pourrait se dire, tiens, se passer des marchés financiers, c'est un peu une idée de gauche, puis bah, se passer des États, c'est peut-être une idée de droite. Comment est-ce qu'on qualifie le projet politique Bitcoin ?
Justement, c'est ça que je trouve qui fait la force du réseau Bitcoin, c'est qu'il est totalement apolitique. C'est-à-dire qu'il regroupe des développeurs de tout le monde entier, de toutes les convictions, de toutes les religions, etc. etc. Donc il n'y a vraiment aucune limite à son développement. Et c'est ça d'ailleurs qui fait la force de Bitcoin, c'est qu'il veut être d'une certaine façon une... je ne vais pas dire une monnaie mondiale, mais en tout cas un système qui peut être utilisé à l'échelle de la planète.
Vous êtes d'accord avec ça, Gilles Quastio ? Le Bitcoin, ce n'est pas politique ?
Quand on dit apolitique, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'il faut rappeler que le Bitcoin, quand il a été créé, il était défendu par deux groupes importants, qui sont les cypherpunks. Les cypherpunks, c'est quoi ? Eh bien, ce sont des développeurs, des hackers, qui sont des gens qui sont anti-système. Et le deuxième groupe, ce sont les libertariens, qu'on connaît un petit peu moins en Europe, mais qui sont très actifs aux États-Unis.
Et qui sont le fondement idéologique, aujourd'hui, de la plupart des grandes plateformes.
Voilà, vous parlez d'Elon Musk, Bertrand, c'est un petit peu ce mouvement-là. Donc, ce sont des gens qui considère que l'État ne fait que mettre des bâtons dans les roues des citoyens et qu'il faut essayer de s'en extraire. Et donc, ici, le projet Bitcoin correspond totalement à cette philosophie, puisque le but est de créer une monnaie virtuelle sans État, sans intermédiaire, sans instruments financiers qui les détiennent.
Alors, Monsieur TK, on parlait de comment fonctionne le minage du Bitcoin. Vous minez du Bitcoin. Vous le faites encore là pour l'instant ?
Alors, moi, je n'ai pas miné directement du Bitcoin. J'ai miné d'autres crypto-monnaies, puisqu'il faut des machines bien spécifiques pour le Bitcoin. Mais effectivement, moi, j'ai déjà visité des installations de minage de Bitcoin dans d'autres régions du monde. Et effectivement, ça reste des installations très importantes. On est sur quelque chose qui se fait maintenant à l'échelle industrielle et plus le simple petit particulier qui fait ça dans son salon.
Alors, la manière de gagner de l'argent avec le Bitcoin, on l'a compris, c'est soit d'investir, soit de miner, puisque quand on résout ces équations, on gagne de l'argent. C'est rentable ?
Alors, en fonction de votre coût électrique, ça peut l'être. En tout cas, pour beaucoup d'installations qui sont situées, notamment aux États-Unis, au Canada ou autres, où le coût de l'électricité est beaucoup plus faible qu'en Europe, ça l'est. Parce que lorsque vous résolvez l'équation, en tout cas pour Bitcoin, vous êtes récompensé de 6,25 BTC toutes les 10 minutes. Donc, on imagine que si toutes les 10 minutes, vous êtes capable d'extraire ces Bitcoins, à 20 000 $ le Bitcoin, ça vous fait 120 000 $ toutes les 10 minutes qui tombent.
Mais là, pour l'instant, c'est pas trop rentable pour vous.
Non, clairement en Europe, avec le coût de l'électricité qui a explosé, ça n'a plus, pour le moment en tout cas, ça n'a plus d'intérêt.
Alors vous disiez, en préparant cette émission, on discutait, forcément on discute juste avant d'arriver, vous me disiez que vous vous chauffiez grâce aux serveurs avec lesquels vous minez, enfin grâce aux ordinateurs avec lesquels vous minez du Bitcoin.
Ah oui. Pas du Bitcoin, visiblement.
Avec lesquels vous minez des crypto-monnaies.
Mais c'est exactement le même principe, puisque derrière, ça fonctionne un peu pareil. Mais effectivement, oui, à partir du moment où vous avez des serveurs, des ordinateurs qui tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ceux-ci consomment de l'énergie. Qui dit consommation d'énergie dit génération de chaleur. Et donc, effectivement, dans mon cas, par exemple, je peux réexploiter une partie de cette chaleur, notamment pour chauffer mon habitation. Mais... Et il y a des personnes qui vont beaucoup plus loin avec des spas, des piscines ou autres.
Ah oui, avec ça. Mais Gilles Quatiot, ça veut dire quand même qu'il y a... C'est un monde réel aussi, le Bitcoin. Ça a des conséquences dans le monde réel, et notamment ça consomme de l'énergie, ce qui n'est pas quelque chose d'anodin dans la situation actuelle.
Effectivement, c'est pas anodin, parce que voilà, TK a dit qu'il peut chauffer son appartement avec ses serveurs. Alors c'est sympa en hiver, mais bon, en été, c'est quand même un petit peu moins sympathique. Vrai. Je pense qu'il transpire un petit peu. Donc ça montre que c'est une aberration écologique aussi. Aujourd'hui, le minage, particulièrement le minage de Bitcoin, est extrêmement énergivore. Il y a eu pas mal d'études qui ont été faites sur le sujet, qui démontrent qu'il y a vraiment une consommation énergétique absolument disproportionnée par rapport aux résultats qui est produit, qui est de la validation de transactions aujourd'hui. Et ce qu'il faut imaginer, c'est qu'aujourd'hui, les principaux mineurs de Bitcoin se sont en fait organisés en ce qu'on appelle des fermes de Bitcoin. Des fermes de Bitcoin, c'est quoi ? Ce sont des gigantesques entrepôts dans lesquels il y a des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de serveurs qui tournent en permanence pour miner du Bitcoin.
La première, l'histoire continue. Bertrand N. Hélène Maquet.
Alors, on vient d'expliquer que le Bitcoin était né d'une utopie, en tout cas d'une réaction à la crise de 2008, avec des aspects politiques. Mais aussi, ce qui va peut-être faire en partie le succès du Bitcoin, c'est les activités illégales en ligne. Ceux qui veulent justement ne pas être regardés des États ou des marchés financiers, qui réclament quand même une forme de transparence. On sait que les sociétés cotées, par exemple, doivent rendre des comptes tout le temps. Monsieur TK, c'est peut-être quand même aussi un des aspects de l'histoire du Bitcoin. C'est le fait qu'il y a beaucoup d'activités illégales qui sont passées par là.
Alors, beaucoup, je dirais pas ça, parce qu'on a eu justement hier une analyse complète qui a été réalisée par la société Certiq, qui s'occupe justement de vérifier les transactions. Mmh. Et à l'heure actuelle, il y aurait 0,24% de la totalité des transactions réalisées sur Bitcoin qui seraient à des fins malveillantes. Donc, il y en a, oui, effectivement. On peut utiliser les crypto-monnaies pour des activités illégales. Maintenant, utiliser Bitcoin pour une activité illégale, c'est quand même un non-sens en soi, puisque le but justement de cette blockchain, c'est d'être un livre ouvert totalement transparent, et donc il est possible effectivement de tracer les transactions. Donc vouloir utiliser Bitcoin pour essayer de faire quelque chose d'illégal et qu'on voudrait cacher, ce serait quelque chose d'un peu idiot à ce niveau-là.
Alors le Bitcoin, ça va aussi devenir au fil du temps un véritable lieu d'investissement, Gilles Quastiot, pour des tas de gens. Ceux qui le font aujourd'hui ne le font pas forcément pour renverser le capitalisme financier.
Alors très clairement, on voit aujourd'hui que la première utilisation du Bitcoin et des crypto-monnaies, il y a environ 20 000 crypto-monnaies en circulation aujourd'hui, c'est à des fins d'investissement, à des fins de spéculation quelque part. C'est un marché qui est extrêmement risqué, il faut le rappeler, extrêmement volatile. On l'a vu ces dernières années. En 2021, fin 2021, le Bitcoin arrivait à un plafond, hein, un record absolu de 67 000 $ pour un Bitcoin. Mais après, on a traversé ce qu'on appelle l'hiver crypto. Hein, en 2022, il y a eu une chute terrible de la valeur du Bitcoin qui a été divisée par 3. Alors depuis le début de l'année 2023, là, ça remonte un petit peu, mais on voit qu'il y a vraiment une forte volatilité. rentabilité. Et c'est ça qui attire les investisseurs qui sont prêts à prendre des risques. Mais il faut le rappeler, c'est extrêmement risqué. C'est déconseillé par l'ensemble des régulateurs.
Monsieur Teka, vous qui investissez dans les crypto-monnaies, dans le Bitcoin, cette volatilité, c'est quelque chose qui vous inquiète, qui vous stresse? C'est quand même de l'argent qui est là et qui change de valeur tout le temps.
Exactement. Donc, je suis totalement d'accord avec ce que Gilles a dit. Donc, effectivement, la volatilité extrême, c'est ce que beaucoup d'investisseurs recherchent. Quand on est présent dans l'écosystème depuis plusieurs années, effectivement, on remarque effectivement qu'on a, comme Gilles l'a très bien dit, ces cycles avec des hausses très importantes suivies de baisses très importantes. Mais ça reste effectivement quelque chose d'extrêmement risqué.
Et vous, c'est pas quelque chose qui vous stresse, qui vous inquiète ?
Moi, pas du tout.
Pourquoi ?
C'est quelque chose, moi justement, comme je dis, je suis venu avant tout pour l'argent et je suis resté pour la technologie, et que le Bitcoin soit à 100 000 dollars ou à 20 000 dollars, ça reste exactement la même chose pour moi, même s'il faut bien l'avouer, je préférerais quand même le voir à 100 000 dollars.
Oui, mais vous en vivez de tout ça?
Alors oui, en tout cas, oui, j'en vis pas directement à partir des crypto-monnaies, mais à partir de tous les services que je réalise autour de crypto-monnaies, ça me permet effectivement d'en vivre.
Alors, Gilles Quastio, il y a les activités illégales qui sont liées aux crypto-monnaies, il y a la volatilité de ces crypto-monnaies, et puis il y a un troisième point qui pose quand même vraiment question autour des crypto-monnaies aujourd'hui, c'est les arnaques. Vous avez travaillé, on l'a dit, sur OneCoin, dans un podcast, dans cette BD qui sort là maintenant sur une autre arnaque. Comment elles fonctionnent, ces arnaques ?
Ces arnaques, elles fonctionnent comme toutes les arnaques classiques en ligne, c'est-à-dire que les escrocs, ils vont vous contacter via essentiellement les réseaux sociaux. Vous allez voir une vidéo YouTube qui va vous intéresser, vous allez prendre contact avec cette personne, vous allez avoir des contacts via WhatsApp, ils vont vous convaincre que grâce à eux, vous allez gagner énormément d'argent, vous allez leur envoyer de l'argent parce que vous ne comprenez pas la technologie, vous ne savez pas exactement comment ça fonctionne, mais vous allez faire confiance à un discours qui va vous plaire à un moment T. Alors, il ne faut pas imaginer que les victimes, les gens qui se font arnaquer sont des gens qui n'ont aucun sens commun et qui vont se laisser avoir n'importe quand. Absolument tout le monde, je pense, peut à un moment ou à un autre avoir une faiblesse ou une attirance vers certains produits, et c'est là que se situe la faille.
Mais quelque part, ces arnaques, c'est pas des arnaques qui sont liées au fonctionnement technique, technologique des crypto-monnaies, c'est plutôt de l'ingénierie sociale. C'est plutôt, en fait, comme pour n'importe quelle arnaque, parvenir à convaincre les gens.
Voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que la mécanique des arnaques est toujours la même, c'est-à-dire que les années précédentes, il y avait peut-être d'autres produits qui allaient être vendus en ligne, comme ce qu'on appelait les options binaires, on peut vendre des diamants, on peut vendre n'importe quoi en ligne. Aujourd'hui, la crypto est attractive parce que on parle beaucoup du Bitcoin, on parle de la valeur du Bitcoin, on parle de l'explosion à un certain moment du Bitcoin qui atteint les 67 000 euros. Et à ce moment-là, évidemment, les escrocs ont un terreau fertile pour proposer leur fausse crypto-monnaie.
Comment est-ce qu'on fait alors, Monsieur Teka, pour éviter une arnaque ? Comment est-ce qu'on le sent ? Comment est-ce qu'on la repère ?
Alors, comme Gilles l'a dit, généralement, c'est quand c'est trop beau que pour être vrai. Donc, à partir du moment où, effectivement, on vous promet des rendements garantis relativement élevés, même si on l'a dit, effectivement, le marché des crypto-monnaies peut être extrêmement volatile, on ne peut pas non plus faire de miracles. Hein, donc, c'est ce genre de choses. Et puis, effectivement, il faut se méfier, effectivement, de tout ce qui est l'ingénierie sociale. Donc, si normalement, personne ne devrait normalement vous contacter en message privé pour vous dire que vous avez gagné un concours auquel vous n'avez jamais participé. Donc, il faut toujours être très prudent à partir du moment où une personne inconnue, anonyme, vous contacte.
Et il vaut mieux aller vers les grandes crypto-monnaies ? Celles qui sont connues ou pas forcément, Gilles ?
Ce qu'il faut d'abord identifier, c'est la plateforme sur laquelle vous allez travailler. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des plateformes qui sont quand même relativement établies. Alors, je rappelle une nouvelle fois que les régulateurs déconseillent d'investir dans ces produits, mais des grandes plateformes, des sociétés qui ont pignon sur rue aujourd'hui se sont créées, sur lesquelles vous allez pouvoir acheter et vendre des crypto-monnaies. Alors ça ne veut pas dire que c'est totalement sécurisé, parce qu'on l'a vu récemment avec certains scandales financiers qui touchent certaines de ces plateformes, qui ne sont justement pas encore régulé aujourd'hui par les institutions.
Et ça, c'est quelque part un quatrième point sur lequel je voudrais venir, lié aux crypto-monnaies. Vous parliez de l'effondrement de FTX,
oui.
Une grande plateforme américaine qui, en gros, sert aux échanges, c'est ça ?
Voilà, une plateforme d'échange de crypto-monnaies, c'est très simple, c'est en fait les nouveaux intermédiaires financiers. Donc paradoxalement, de nouveaux intermédiaires se sont créés dans le monde de la crypto-monnaie qui était censé ne plus en avoir. Ces intermédiaires, ils servent à quoi ? Eh bien, ils servent à mettre en contact, évidemment, les personnes qui achètent et qui vendent des cryptos. Vous pourriez très bien le faire en appelant quelqu'un, mais c'est très compliqué de le faire comme ça. Donc vous allez vous retrouver sur des plateformes centralisées qui vont centraliser ces échanges. Et c'est via ces plateformes crypto que vous allez pouvoir acheter et vendre, faire vos investissements. Et malheureusement, certaines de ces plateformes ne sont pas fiables.
On était donc dans un système qui avait réussi à se décentraliser de manière technologiquement très robuste. Et puis là, on voit de nouveaux tiers, en réalité de nouvelles institutions tierces qui viennent se placer au-dessus et qui, quelque part, viennent de nouveau rompre la confiance, M. TK.
Exactement, c'est effectivement ça. On a des intermédiaires qui se sont créés pour faciliter, notamment dans ce cas-ci, les opérations d'échange, puisque, comme on l'a dit, au final, vous pourriez toujours acheter à quelqu'un, mais le problème, c'est qu'il faut rentrer en contact, il faut faire l'échange, etc. C'est très compliqué. Ici, avec une plateforme centralisée, effectivement, vous avez la facilité d'accès. En quelques minutes, vous pouvez acheter et vendre vos crypto-monnaies. Mais effectivement, c'est un non-sens vis-à-vis de l'écosystème en lui-même, puisqu'on vient remettre cette couche qu'on essayait de se débarrasser.
Mais est-ce que c'est pas un problème un peu congénital? Le Bitcoin naît de capitalisme qu'on juge dérégulé ou pas assez régulé, donc on va créer quelque chose sur le côté, mais en même temps qui est totalement dérégulé aussi et qui permet quand même des arnaques et dont certaines mettent des années à être jugées. Gilles Coistiot, vous êtes intéressé à l'arnaque auquel a participé Laurent Louis, ancien député à la Chambre des représentants en Belgique. Il est toujours pas jugé, ça fait des années. Et voilà, les gens n'ont pas récupéré leur argent.
C'est malheureux, évidemment, ces arnaques-là qu'il faut vraiment distinguer de la problématique des plateformes, parce que ce sont des arnaques en ligne de fausses plateformes quelque part. Mais ici, évidemment, pour la problématique du OneCoin, qui est la plus grosse arnaque aux crypto-monnaies qui ait jamais existé, on parle de plusieurs milliards de dollars qui se sont évaporés. Et ici, effectivement, en Belgique, par l'intermédiaire de l'ancien député Laurent Louis, malheureusement, voilà, je sollicite la justice régulièrement pour savoir où en est l'instruction à l'encontre de Laurent Louis, puisqu'il y a une instruction qui est ouverte, mais elle est ouverte depuis 6 ans. Donc on voit qu'il y a vraiment une grosse difficulté de la part des autorités judiciaires, de la part de la justice, pour arriver à aboutir à des résolutions de ce type de problématique, parce que je pense qu'il n'y a pas encore les outils nécessaires, il n'y a pas encore la connaissance nécessaire dans l'institution judiciaire de cet outil technologique que sont les crypto-monnaies. Donc il y a une méconnaissance qui fait que les dossiers prennent énormément de temps.
Cela dit, Monsieur TK, est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas du tout régulé, ou est-ce que les régulateurs, vous parliez toujours des régulateurs qui déconseillent, Gilles Coistiot, d'investir là-dedans, mais aux États-Unis, etc., est-ce que quand même le gendarme des marchés met des règles aux plateformes de crypto, ou c'est totalement dérégulé?
Alors, c'est pas totalement dérégulé, mais par contre, ce n'est pas encore totalement régulé comme certains l'aimeraient. Moi, comme je vous dis, j'ai commencé en 2016. En 2016, c'était beaucoup plus le Far West, si je puis dire, que maintenant. Donc, on va, entre guillemets, vers un mieux pour le régulateur, si on se met du point de vue du régulateur. Mais le chemin est encore très, très long.
Donc, il commence à y avoir des agréments qui doivent être demandés dans certains pays pour pouvoir opérer une plateforme de crypto-monnaie. En Europe, il y a une législation très importante qui est en préparation, qui s'appelle MiCA, et qui entrera en vigueur probablement en 2024. Donc ça prendra encore un certain temps, mais là, il y aura une réglementation qui se calque quelque part sur le monde financier traditionnel et qui devrait permettre d'arriver à plus de confiance dans le secteur, dans les plateformes crypto, plus de protection aussi du consommateur, mais du coup aussi peut-être moins d'intérêt pour les crypto-monnaies de la part des investisseurs, des gens qui sont là pour le risque, pour des actifs extrêmement volatiles qui le seront peut-être un peu moins dans le futur.
Alors peut-être une dernière question à vous deux avant de terminer cette émission. On a retracé toute l'évolution du Bitcoin, de sa naissance à ses écueils aussi aujourd'hui. Monsieur TK, est-ce que vous pensez que le Bitcoin va gagner? Qu'à un moment donné, ce sera ça le système monétaire?
Alors, je ne pense pas que ça deviendra l'unique système monétaire, mais par contre, je suis convaincu que Bitcoin a clairement sa place dans le marché mondial, si je puis dire, dans les années à venir.
Gilles Coistiot.
Je pense que c'est pas exclu, mais qu'on verra peut-être apparaître d'autres crypto-monnaies que Bitcoin, qui n'est pas forcément basée sur la technologie la plus simple à utiliser aujourd'hui. On a vu apparaître il y a quelques années le projet Libra, qui est le projet en fait de crypto-monnaie porté par Facebook, une énorme entreprise, vous le savez, qui est en train de créer son métavers. Et on sait que dans le métavers, eh bien la monnaie qui sera en circulation, ce sera probablement une crypto-monnaie. On pourrait voir du coup apparaître des crypto-monnaies qui sont créées par des grosses entreprises entreprises technologiques dans les prochaines années.
Avant le métavers, il y a peut-être encore une chose qu'on peut signaler, c'est qu'il y a énormément de gens qui utilisent les crypto-monnaies aujourd'hui ailleurs qu'en Europe et aux États-Unis. Monsieur TK, en Amérique du Sud et en Afrique, c'est en réalité un système financier qui est beaucoup plus présent dans la réalité.
Exactement, c'est parce qu'effectivement, nous, on le voit avec notre prisme d'Européens où, effectivement, on a des distributeurs bancaires, bien qu'ils se fassent de plus en plus rares. On a tous notre app pour payer sur notre smartphone. Il faut savoir que dans beaucoup de pays du monde, ça ne se passe pas comme ça et c'est relativement compliqué d'avoir accès à un système bancaire traditionnel, si je puis dire. Et donc, c'est vrai que dans ces pays, que ce soit l'Amérique du Sud ou en Afrique, ça se développe beaucoup parce qu'ils ont tous accès à un smartphone, mais pas spécialement à une banque. Et donc, les crypto-monnaies se développent plus favorablement dans ce genre de pays.
Gilles.
Voilà, il y a effectivement toute cette population qu'on appelle débancarisée qui pourrait être intéressée par ce système d'échange. Mais ici, en Europe, il y a vraiment un gros développement aussi. Il faut quand même se rendre compte qu'on est sur une phase d'adoption qui est de plus en plus massive. Il y a une étude de la Banque Centrale Européenne assez récente qui a établi des chiffres pour la Belgique. On parle de plus de 500 000 ménages belges qui détiennent de la crypto-monnaie. Donc il faut s'y intéresser. C'est beaucoup dans les jeunes générations qu'il y a des investissements dans les crypto-monnaies. Donc voilà, il faut en parler autour de vous et essayer d'appréhender ce nouveau monde qui est de plus en plus dans les portefeuilles des gens.
Et pas impossible qu'un jour, il y ait plus de distributeurs de Bitcoin que de distributeurs de billets, Monsieur TK, vous y croyez ça?
Alors, ce serait pour certains un rêve, pour d'autres un cauchemar.
C'est parce qu'on annonce la disparition du cash que je dis ça aussi. Quand je dis distributeur de billets, avec ou sans Bitcoin, on annonce de toute façon la fin du cash et peut-être que le Bitcoin pourrait alors vraiment s'imposer.
C'est le titre entre guillemets du livre blanc, du fameux white paper du Bitcoin, c'est du cash digital et c'est vrai que peut-être qu'on va se tourner vers ce système-là si à un moment donné on n'a plus la possibilité d'avoir le bon vieux format papier dans notre portefeuille.
Et ben voilà, la boucle est bouclée. Hein. On revient à ce fameux livre blanc, white paper du Bitcoin, créé, écrit, diffusé sur cette plateforme bitcoin.org par Satoshi Nakamoto, dont on ne sait toujours pas de qui il s'agit à la fin de cette émission.
Désolé.
On a beau en parler, on ne sait pas.
On n'a pas d'autres infos.
On n'a pas d'autres informations. Merci beaucoup Gilles Coistio d'avoir été avec nous, journaliste à l'Écho,
avec
auteur
plaisir.
De deux ouvrages sur le Bitcoin, d'un podcast et d'une BD à partir de maintenant.
Et merci Monsieur TK, dont on peut retrouver notamment les vidéos sur YouTube, etc. C'est facile, si on tape votre nom sur Google, on vous retrouve.
Exactement.
Voilà, très bien.
Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce que nous faisons chaque semaine dans l'Histoire continue.
Avec l'aide des archives de la Sonuma et à la réalisation Jonathan Remy.